Vous écoutez
RMC. Good morning. Good morning. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
4h56, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, bon courage, particulièrement ce matin, si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. Bonjour Géraldine Demory.
Salut Charles, bonjour à tous.
Nous sommes le 1er mai.
Mais
oui, à chaque fois on se demande un peu hein, ce qu'on fait là, est-ce qu'on va être tout seul, est-ce
que... Mais non, dis donc, sur Direct Studio, je vois qu'on n'est pas tout seul du tout. Il y a déjà Béa, il y a Emmanuel, il y a Ibrahim, il y a David, oulala,
voilà. J'en étais sûr, les leftos sont là. Non, mais à chaque fois on a ce doute, le 1er mai, c'est vraiment une journée chômée, est-ce qu'il y en a qui bossent, est-ce qu'il y en a qui sont levés tôt quand même. Venez nous le dire ce matin, si vous êtes déjà là sur Direct Studio, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à passer par le 32-16, Quentin et Nicolas vous attendent, vous venez vous installer quand vous voulez autour de la table sur RMC, personne n'est jamais tout seul le matin, encore plus les jours fériés. Il n'y a pas de jours fériés sur RMC, on est comme ça, on est avec vous et encore plus heureux d'être à vos côtés, d'être ensemble en ce 1er mai. Et puis alors bon, évidemment, vous le savez, la bande-son de Charles Matin, ce matin, ça va être un peu particulier, mais oui, on aura tous cette petite musique dans la tête. Parce que c'est le grand soir, Dortmund-PSG, demi-finale aller de la Ligue des Champions, Paris face au mur jaune du Borussia.
Et ça se passe sur RMC, bien sûr, avec une soirée spéciale dès 18h, 21h, le match. Et puis il y aura l'after foot jusqu'à minuit, la libre antenne jusqu'à 1h. Donc le match qui est à suivre à la radio, mais aussi à la télé sur RMC Sport 1.
Mais racontez-nous déjà votre soirée. Est-ce que les pizzas sont déjà commandées pour ce soir? Est-ce qu'il y a déjà de la bière au frais? Quel est le menu? Comment vous allez vivre ce match? Et puis, tiens, supporter parisien ou pas, demain, il y aura aussi l'OM qui joue. Est-ce que, on s'est posé la question, tiens, est-ce que toute la France est derrière les clubs français ce soir en Coupe d'Europe? Tiens, vous êtes supporter, je sais pas, lyonnais, nantais, marseillais. Est-ce que vous êtes derrière le PSG ce soir? À l'inverse, je pense aux parisiens. Est-ce qu'ils seront derrière l'OM demain soir? Bref, est-ce que quand on est français, on est forcément derrière les clubs français en Coupe d'Europe ou pas? Est-ce que ça vous choque, ces Français qui vont supporter une autre équipe, une équipe étrangère face aux Français ce soir? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, on peut en débattre, supporters de foot évidemment. Et puis tiens, autre débat, sûrement aussi sensible que le foot, qu'on va avoir avec vous ce matin au 32-16, les radars de vitesse sur vos routes. La Cour des comptes a dévoilé hier les sommes records récoltées grâce aux amendes générées par les radars.
Et plus de 2 milliards d'euros en 2023, jackpot hein, jamais atteint, une hausse de 7% sur un an. Alors ça s'explique surtout par l'augmentation des radars, et il y en a 4660, c'est une bonne centaine de plus qu'en 2022.
Ouais, toujours plus de radars et une petite polémique aussi sur la manière dont les recettes de ces amendes sont utilisées. Il y en a une bonne partie qui est versée à des actions liées à la sécurité routière, mais les amendes servent aussi de plus en plus à rembourser la dette de l'État, à gonfler le budget des collectivités locales.
Et puis le nombre de morts sur les routes, lui, qui ne diminue plus ces dernières années, contrairement à ce qu'on a observé au début des années 2000, justement quand les premiers radars ont commencé à être installés.
Oui, il y a eu un vrai effet radar sur la mortalité routière. C'est moins le cas ces dernières années, alors qu'on continue à en installer, qu'on n'a jamais autant flasher, autant payer d'amendes. Est-ce qu'on est arrivé au bout de la politique du tout radar? On va avoir ce débat avec vous ce matin, tiens, notamment si vous êtes régulièrement sur les routes, là, vous qui nous écoutez le matin, racontez-nous, est-ce que ça vous arrive de vous faire flasher? Vous faites partie, tiens, de ces 2 milliards d'euros d'amendes payées l'an dernier. N'hésitez pas, je vois Géraldine qui lève les yeux au ciel, oui. T'en as payé une bonne partie de ces 2 milliards.
Une bonne partie, exagérons pas, mais j'en ai payé un peu aussi.
Ça peut arriver au meilleur, voilà, de se faire flasher. N'hésitez pas, est-ce qu'on est arrivé au bout du tout radar? Le 32-16 est ouvert. Et puis, tiens, quelle va être la météo de ce 1er mai? Là aussi, Géraldine, tu as la réponse.
C'est simple, c'est de la pluie. De la pluie pour pratiquement tout le monde et des pluies qui seront parfois bien soutenues. Et alors, notamment en deuxième partie d'après-midi, on va avoir des orages qui vont éclater parfois violents avec un risque de grêle, avec de gros cumuls de pluie sur la Bourgogne-Franche-Comté, puis qui vont se diriger vers l'Île-de-France, la Champagne, les Hauts-de-France. Vers l'Atlantique, ce sera un petit peu plus calme cet après-midi. Les températures vont baisser après le passage des pluies. Il fera 13 degrés cet après-midi à Bordeaux, 17 à Marseille, on aura 18 à Lyon, 21 à Paris encore jusqu'à 26 degrés à Strasbourg, une baisse qui va se confirmer demain avec de la pluie jusqu'à la fin de la semaine.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct le matin, en ce 1er mai, c'est avec Thibaut Texer pour le journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. 2 milliards d'euros, c'est le montant des amendes routières en 2023, chiffre record publié hier par la Cour des comptes. Jusqu'à 150 000 personnes attendues dans les rues pour ce 1er mai, jour de la fête du travail. Les services de renseignement se disent vigilants quant à la présence d'éléments radicaux. Et puis le PSG face au mur jaune de Dortmund, demi-finale de Ligue des Champions. Ce soir, les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund. C'est à 21h sur AMC.
Ils sont de plus en plus nombreux sur les routes de France et les radars rapportent de plus en plus gros.
2 milliards d'euros l'an dernier, un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2022 selon la Cour des comptes, une recette record qui s'explique notamment par la performance des radars automatiques. Ils rapportent à eux seuls 750 millions d'euros, des machines à cash dénoncées par certains reportages à Épinay-sur-Seine, Romain Poiseau.
C'est ce que Sébastien appelle un radar sournois.
Il est planqué derrière un panneau publicitaire. Il est là de temps en temps et après il le bouge, il le met sur une autre rue derrière et il revient. Quand tu prends l'habitude qu'il est plus là, tu te fais flasher.
Et ce radar automatique qui flash à 50 km/h sur une 4 voies a déjà verbalisé Sébastien deux fois cette année. Le soir, c'est un vrai festival.
C'est incroyable. Quand on mange, il y a un restaurant qui est un peu plus haut. Quand on se met au restaurant et qu'on mange là-haut, on voit les flashs toute la soirée. Ouais, c'est un peu boîte de nuit ici. Ouais, c'est marrant. Pour celui qui est assis à table, pas sur celui qui est dans la voiture. C'est pour faire de l'argent, clairement.
Et l'année dernière, les radars automatiques ont rapporté près de 750 millions d'euros à l'État, soit une augmentation de 5,7% par rapport à l'année précédente. Mais où va cet argent? La réponse d'Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners.
Une petite moitié va vers des mesures pour améliorer la sécurité routière. Il y a un tiers de ces recettes qui va plutôt vers l'investissement dans de nouvelles infrastructures de transport en France. Et puis ce qui reste, c'est consacré à destination des collectivités locales pour abonder leur budget.
10% des recettes liées aux amendes servent aussi à rembourser la dette de l'État.
Et n'hésitez pas, au 32-16, on vous attend pour témoigner. Tiens, vous êtes peut-être fait flasher l'an dernier. Est-ce qu'on est arrivé au bout de cette politique du tout radar? Vous prenez la parole, vous témoignez au 32-16.
C'est le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales via Internet. Vous avez jusqu'à vendredi pour le faire en mairie. Un peu plus d'un mois des élections européennes. Gabriel Attal sonne la mobilisation de son camp en baisse dans les sondages. Pas de jour férié quand on est en campagne, lance le Premier ministre qui sera dans le Loiret en ce 1er mai, jour de la fête du travail. Entre 100 et 150 000 personnes sont attendues dans les rues ce mercredi, selon les services de renseignement, qui se préparent, Guillaume Bier, à quelques perturbations.
Le défilé parisien cet après-midi entre République et Nation risque d'agréger toutes sortes de militants en quête de visibilité, à commencer par les opposants à la tenue des prochains Jeux Olympiques. Plusieurs collectifs de détracteurs ont appelé à mener des actions lors de cette journée, à une semaine de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Les activistes de la mouvance d'ultra-gauche, eux aussi, devraient se manifester. Organisés comme d'habitude en black bloc, ils pourraient être entre 400 et 800, estiment les policiers du renseignement. Enfin, dans le contexte géopolitique, des militants pro-palestiniens devraient également s'inviter dans le cortège syndical, ainsi que des opposants au régime iranien. Face au risque d'incidents, en plus des effectifs de maintien de l'ordre, la préfecture de police mènera des contrôles préventifs bien en amont du défilé.
Une cause palestinienne évoquée par Guillaume Bier qui s'étend dans les universités, des étudiants mobilisés à Rennes, à Lyon ou encore Dijon, avec pour conséquence l'annulation de certains cours, voire d'examens. Une situation qui exaspère la droite et l'extrême droite, qui reprochent au gouvernement une certaine forme de laxisme. Accusation rejetée hier à l'Assemblée nationale par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau.
Les blocages et les intimidations, c'est non. Et encore moins l'incitation à la haine et l'antisémitisme avec une tolérance zéro ou l'appel à l'insurrection. À Sciences Po, aucune sanction n'est suspendue, concernant en particulier des faits graves, comme les actes et les propos antisémites signalés lors des événements du 12 mars, par exemple, et qui font l'objet d'une enquête administrative. Je ne crois pas que l'on puisse parler à ce moment-là d'un manque d'autorité, alors que nous le voyons, nos chefs d'établissement prennent leurs responsabilités.
Et dans ce contexte, les États-Unis pressent le Hamas d'accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël portant sur une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza. Il est 5h05, vous écoutez RMC, une marche blanche samedi à Châteauroux pour Matisse, mortellement poignardé le week-end dernier à l'initiative de cet hommage des amis de l'adolescent de 15 ans. Hier, le père du jeune homme s'est longuement exprimé sur les réseaux sociaux. Il réclame, Julie Brault, justice pour son fils.
Oui, c'est dans une publication sur Facebook que le père de Matisse a d'abord décrit avec beaucoup d'émotion des moments joyeux partagés avec son fils. Tu étais le roi de la gaffe, bourré d'humour, un vrai gentil, prêt à tout pour tes amis, écrit-il. Un père très ému, mais qui refuse de basculer dans la haine et la colère. « Je vais vivre pour toi et me marrer en ta mémoire », assure-t-il. Inondé de centaines de messages de soutien depuis 4 jours, il a notamment déclaré à nos confrères de France 3 avoir reçu un appel du Premier ministre Gabriel Attal. « Je lui ai dit que j'espérais que la justice sera maximum », dit-il. Une justice très ferme donc, mais aucune violence, implore le père de famille, notamment lors de la marche blanche organisée pour son fils samedi prochain. Mathis était un gamin super gentil. On veut quelque chose qui lui ressemble, finit-il par souffler.
Les précisions de Julie Bro, service police-justice RMC. Paris, face à son destin, c'est le grand jour pour le club de la capitale en déplacement à Dortmund ce soir, demi-finale aller de Ligue des Champions. Si le PSG part favori, les Parisiens devront faire avec une ambiance hostile. Plus de 80 000 supporters derrière leurs joueurs ce soir dans le plus grand stade d'Allemagne et son mythique mur jaune, Valentin Jamin.
25 000 supporters debout et déchaînés, habillés en jaune et noir. Dans une tribune de 40 mètres de haut, 100 de large et une inclinaison à 37 degrés, un vrai mur où on n'arrête jamais de chanter.
Black and yellow, adrenaline.
L'adrénaline jaune et noir, dit Sébastien, abonné.
We call it Gänse.
On a des frissons dans tout le corps, c'est dingue, il faut le vivre. C'est un peu étrange à la fin du match car vous êtes fatigué, mais d'un autre côté vous êtes surexcité, c'est génial.
It's awesome.
Les abonnements s'y transmettent de génération en génération. Avec ses animations exceptionnelles, le mur jaune est un atout dans les grandes affiches comme lors des deux dernières qualifications à domicile. La victoire en quart 4-2 contre l'Atlético de Madrid a marqué Alex, supporter.
Contre l'Atlético, ma voix est partie pendant 3 ou 4 jours ensuite. L'atmosphère était incroyable, il y avait de la magie. Des milliers de gens ici rêvent d'y venir.
Dans son stade, Dortmund n'a plus perdu depuis 10 matchs en Ligue des Champions grâce à son public, pensait Dinterzic, l'entraîneur.
C'est une chose de le voir, c'en est une autre de l'entendre. Ça nous apporte beaucoup d'énergie, de confiance. C'est unique. Ils sentent qu'ils doivent nous apporter ce plus.
Confidence. Et Paris n'a jamais gagné devant ce mur jaune en 3 rencontres.
Borussia Dortmund PSG, c'est l'événement aujourd'hui sur RMC dès 18h pour l'avant-match avec Rotten sans flamme, coup d'envoi à 21h suivi de l'after-foot jusqu'à 1h hier soir. Dans la première demi-finale, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés sur un match nul. 2 buts partout. Et puis tiens Charles, Géraldine, est-ce que vous aimez les biscuits apéritifs?
Oui.
Bah, oui. Eh bien sachez qu'en manger peut faire de vous une star. Pourquoi? Ah. Je vous dis ça parce qu'à New York, un étudiant a décidé de faire ça en pleine rue en mobilisant des centaines de spectateurs. Je pensais que la ville de New York avait besoin de quelque chose comme ça, a déclaré l'anonyme, vêtu d'un masque orange lors de sa performance. Il faut savoir qu'il avait placardé des affiches partout dans la ville pour dire qu'il allait faire cette performance. Des centaines de personnes sont venues voir un homme manger des biscuits apéro.
Ah, wow, passionnant.
Ouais. Une performance que je vais réaliser sur mon canapé ce soir, devant le match. Voilà, mais sans spectateur. Voilà, je pratique en amateur.
Sans enthousiasme non plus.
Si, avec un bel enthousiasme, je ne serai pas le seul. Ce match, on va le suivre dans le monde entier. Je vous propose qu'on part tout de suite à Melbourne, retrouver Aurélien qui nous a contacté sur Direct Studio. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Oula, on vous entend très loin, on est vraiment au bout du monde là. Allô Aurélien, est-ce que vous m'entendez?
Oui, allô.
Ah là,
oui,
c'est
oui,
pas mal. Là. Salut Aurélien, comment ça va à Melbourne ce matin?
Bah écoute, pour moi ça va, ici il est midi, 13h.
13h, on est au milieu de la journée et Aurélien, vous écoutez RMC grâce à l'appli j'imagine, à 13h, au bout du monde.
Oui, j'écoute tous les après-midi pour moi. Ouais. Donc, je suis prêt pour le match qui aura lieu pour moi demain matin à 5h du matin.
Ah oui, on va se lever tôt là pour le coup.
Oui, ce sera le petit déj pour vous à 5h du mat en Australie. Vous pourrez suivre Dortmund PSG en direct grâce à RMC aussi. Bah, c'est fou Aurélien, vous êtes supporter du PSG ou pas du tout?
Oui, Paris et aussi du Stade de Reims.
Et du Stade de Reims, bon, qui brille un peu moins depuis 50 ans en Coupe d'Europe. Mais du coup,
vous allez supporter Marseille?
Oui, comme je suis français, du coup, supporter quand même Marseille.
Les Français sont derrière les clubs français, on l'entend avec vous Aurélien. Bon, on est un peu au bout du monde, hein. On l'entend même au niveau téléphonique avec Melbourne. Bon, tiens, on va se rapprocher un peu, on va aller dans l'Isère maintenant à accueillir Emmanuel. Vous êtes très nombreux ce matin au 32-16, un 1er mai. Alors en Australie, c'est pas férié, c'est peut-être pour ça qu'Aurélien est au cœur de sa journée de boulot, parce qu'il est 13h là-bas. Mais alors, bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Emmanuel, dans l'Isère, c'est ça, levé de bonheur un 1er mai?
Toujours, ouais.
Mais pourquoi? Pour le boulot?
Non, ce matin, je vais baliser une randonnée pédestre et VTT dans les bois de Chambaron.
Ah, génial! Vous faites ça, bah, du coup, j'imagine que c'est bénévole, mais c'est pour,
c'est pour
la bonne cause, pour les autres, en fait. Vous balisez avant le passage des randonneurs.
Exactement.
Ah, hyper
sympa. Pour aller ramasser le muguet.
Ah, en plus, ah bah super, alors,
ah, 1er mai.
Bah, attendez, on va être précis. Où est-ce que ça se passe? Si on veut y participer aujourd'hui, on va faire un peu de promo, Emmanuel.
Ouais, bah écoutez, super, c'est dans la commune de Roibon.
Ok, à Roibon, c'est en Isère.
Ouais,
et donc, voilà, j'imagine qu'en quelques clics sur Google, on trouve facilement la randonnée.
Oui, on a été tristement célèbre, Roibon, durant une dizaine d'années avec une ZAD implantée sur notre territoire.
Je me souviens, mais là, bon, c'est pour toute autre chose aujourd'hui.
C'est pour que ce sera.
Voilà, la randonnée. Muguet avec Emmanuel, n'hésitez pas à
aller. Un petit kawaii hein, quand même.
Non, il fait beau, il fait soleil.
Okay, c'est la méthode queer.
On entend le commercial, parce que je vois sur l'affiche que vous êtes commercial.
Oui, mais je suis passé à l'antenne il n'y a pas longtemps, j'ai gagné deux places avec vous, en plus un matin pour une finale du handball.
Ah, pour les JO
féminine. Pour les JO, oui.
Ah, génial, vous avez gagné les dernières places des JO qu'on offrait sur RMC à 100 jours des JO. Bah, vous faites partie des heureux qui pourront supporter les Français, les Françaises en l'occurrence, c'est ça, pour la finale du hand, les filles, cet été. Et Emmanuel, non mais parce que je vous pose la question, vous êtes commercial, donc j'imagine que vous faites beaucoup de routes, et ce matin, on a
fait plus de 100 000 km par an.
Ah bah voilà, donc gros rouleur. On parle ce matin des radars. Ces radars, vous les voyez s'implanter sur les routes depuis 20 ans, il y en a de plus en plus. On a battu un record l'an dernier, 2 milliards d'euros d'amende. Pourtant, on voit que dans les courbes, le nombre de morts sur les routes, ça stagne depuis quelques années maintenant. Il n'y a plus de véritable effet sur la sécurité routière. Est-ce qu'on est arrivé un peu au bout du tout radar? Comment on fait, tiens, comme vous, quand on fait 100 000 bornes par an pour éviter de perdre tous ces points?
Moi, j'ai 12 points sur mon permis.
Ah bah bravo! Avec 100 000 km par an, c'est une performance.
Ouais, il suffit d'être respectueux des codes de la route et puis conduire au régulateur de vitesse et... Voilà.
Ouais, donc quand je vous entends, c'est pas un piège les radars.
De toute façon c'est signalé sur toutes les applications, que ça soit Waze. Il suffit de puis pour gagner 3 minutes sur 300 km, c'est moi je pense que c'est dit pour risquer sa vie pour rien. C'est
Donc pas excédé par les radars alors que vous faites 100 000 km.
Non, au contraire, je pense qu'il y a certains conducteurs qui mériteraient. Moi qui suis sur la route toute la journée, il y a certains conducteurs qui mériteraient d'être plus sanctionnés.
Donc c'est important qu'il y ait ces garde-fous, ces radars un peu partout sur les routes. Pour vous, Emmanuel, c'est intéressant de vous entendre ce matin parce que vous êtes concerné au premier plan, 100 000 km par an et pourtant pas du tout excédé par les radars. C'est très intéressant de vous entendre. Je vous remercie, Emmanuel, d'être passé ce matin par le 32-16.
Et je vous souhaite un bon 1er mai à vous tous, à la Dream Team.
Merci, Emmanuel. Et donc je rappelle, la rando Muguet du côté de Roibon en Isère qui est balisée dès 5h du matin par Emmanuel, un courageux, un lève-tôt. On remercie aussi Aurélien depuis Melbourne qu'on salue et qui va se lever tôt lui demain pour suivre en direct Dortmund PSG sur RMC. Et puis on n'oublie pas aussi de vous faire gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Eh oui, on est le 1er mai, mais pas de jour férié pour gagner sur RMC. Tous les matins, on vous offre des cadeaux si vous répondez à notre question d'actu.
Ah, je suis sûre que vous l'avez ce matin. Qui est l'adversaire du PSG ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions?
Ouais, non, pas d'indice là, c'est cadeau ce matin. Mais attention, il faut quand même envoyer le mot actu par SMS au 732-16. Actu au 732-16.
Vous pourrez gagner un Radio Réveil de la marque Mus pour vous réveiller tout le matin avec RMC.
Oui, voilà, pour être gâté, pour être en direct avec nous tout à l'heure à 6h20, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police-justice.
Oui, tous les matins, une histoire repérée, racontée par le service police-justice d'RMC. On retrouve tout de suite Guillaume Biet. Bonjour Guillaume.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Guillaume, vous nous racontez ce matin l'histoire de ce braquage de fourgon spectaculaire dans la banlieue lyonnaise hier matin.
Oui, une attaque à main armée violente menée par un commando de 4 malfaiteurs encagoulés avec un important butin à la clé. Cela se passe à Rieux-la-Pape, juste au nord de Lyon, dans une zone d'activité où sont situées de nombreuses entreprises. Hier matin, un peu avant 8h30, un fourgon non blindé de la société Témis, spécialisée dans le transport de fonds et de marchandises de valeur, ce fourgon se retrouve soudainement coincé, pris en étau par deux voitures, d'où sortent 4 malfaiteurs. Ils ont des armes longues, menacent menacent les deux convoyeurs, dont une femme qu'ils n'ont pas hésité à frapper. Elle a reçu un coup de poing et a été légèrement blessée. Les malfaiteurs s'emparent de plusieurs sacs contenant non pas des liasses de billets, mais plutôt des bijoux sortis d'un atelier de joaillerie implanté à cet endroit. Le montant du préjudice est très élevé. Il est estimé à 560 000 euros d'après le procureur de Lyon. Avant de s'enfuir, le commando a mis le feu au véhicule sur place, puis a rejoint l'autoroute A46 en abandonnant une autre de leurs voitures également incendiée.
Et Guillaume, dans la région lyonnaise, c'est pas la première fois, loin de là, qu'il y a eu une attaque de ce genre.
Non, effectivement, ces dernières années, des équipes de braqueurs ont sévi dans le secteur, rappellent nos confrères du Progrès. Dans la même ville, à Rieux-la-Pape, il y a 10 ans, une autre société avait été ciblée. Un entrepôt de métaux précieux qui avait été attaqué en pleine matinée au camion bélier. Toujours à Rieux-la-Pape, en 2010, ce sont 200 kilos d'or en lingots qui avaient été volés dans une fonderie, laquelle avait déjà été braquée pile un an auparavant, avec 270 kilos d'or dérobés. Alors un contre-exemple tout de même, c'était il y a 2 mois à Villeurbanne. L'attaque d'une fabrique de bijoux, elle, a échoué. 3 suspects avaient été arrêtés en flagrant délit. Pour en revenir à ceux d'hier, eh bien, ils sont activement recherchés. L'enquête a été confiée aux policiers lyonnais spécialisés dans la lutte contre le grand banditisme.
Le récit de Guillaume Bien. Merci Guillaume, chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Les radars, toujours plus nombreux et qui rapportent toujours plus d'argent. Plus de 2 milliards d'euros d'amende l'an dernier. C'est un record. Le problème, c'est que ces recettes, ces amendes servent de moins en moins à financer la sécurité routière. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on arrive au bout du tout radar? À l'inverse, Emmanuel, à l'instant, nous disait, moi, je fais 100 000 km par an et j'ai toujours mes 12 points. Il suffit de conduire correctement pour échapper au radar. Alors, est-ce qu'il y a trop de radar ou pas aujourd'hui sur nos routes? Vous venez témoigner. Tiens, je vois Ibrahim qui nous appelle des Alpes-Maritimes, qui veut tout de suite témoigner sur RMC. Et puis dans un instant, c'est RMC qui s'engage avec vous. Guillemette Franquet vient en aide à Florent, qui peste contre un projet de parc éolien à 2 pas de chez lui. Vous allez l'entendre.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
À 5h18, excellent réveil à tous en ce 1er mai sur RMC.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
C'est Guillemette Franquet qui nous rejoint ce matin. Bonjour Guillemette.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Alors ce matin Guillemette, vous avez enquêté sur le développement des parcs éoliens en France.
Oui, les résidents d'un village de Haute-Saône nous ont écrit. Fresnes-Saint-Mamet, 512 habitants, une église, un tabac presse pizzeria, des champs à perte de vue et bientôt 6 grandes éoliennes donc. Et le projet inquiète les riverains comme Florent. Lui, il vit dans un pavillon avec sa femme et ses 2 enfants.
Quand on monte une structure à 800 mètres de chez vous, de 250 mètres de haut, donc 50 mètres de moins que la tour Eiffel, c'est pas du tout adapté. On va subir une pollution visuelle, une pollution sonore, une dévaluation immobilière.
Pourtant, Florent n'est pas foncièrement contre les éoliennes. En fait, ce qui le gêne, c'est la méthode.
Dans les milieux ruraux, on est de moins en moins écoutés, quoi. Les citoyens sont amenés à faire des observations. Mais en aucun cas, on leur demande leur avis. Je trouve ça aberrant, oui.
Florent a reçu la visite du promoteur éolien il y a 1 mois et demi. L'entreprise souhaitait installer des sondes acoustiques chez lui, mais il a refusé.
Mais alors, pour qu'on comprenne bien la guillemette, quelles sont les règles pour implanter un parc éolien?
On a enquêté, et je peux vous le dire, Charles, la réglementation est très stricte et il faut un peu s'accrocher pour bien tout comprendre. En résumé, aucune éolienne ne peut être installée à moins de 500 mètres d'une habitation et il y a des étapes à respecter. D'abord, concertation avec les élus et la population. Ensuite, étude d'impact, puis enquête publique. Et enfin, le préfet décide ou non d'autoriser le projet. Un processus qui va durer au moins 1 an et demi.
Mais alors là, dans le cas de ce village-là, de Fresnes-Saint-Mamet, est-ce que toute la procédure a été parfaitement respectée?
Eh bien, plutôt oui. Hein, c'est ce que nous a confirmé le ministère de l'Économie qui gère le dossier. Là, on est dans la phase de concertation. Mais le maire de la commune, Fresnes-Saint-Mamet, donc, prétend être à peine au courant. Alors forcément, les riverains se sentent exclus du projet. Nous lui avons rappelé que même s'il s'agit d'un projet privé, il est partie prenante dans la concertation. Nous, on vérifiera que l'élu accompagne Florent et ses voisins comme il le doit. Si le projet est validé, les habitants pourront toujours le contester. D'ailleurs, les autorisations sont quasi systématiquement attaquées devant les tribunaux.
Et on compte sur vous, évidemment, pour suivre ce dossier. Comme tous les autres, guillemets, on rappelle l'adresse pour vous contacter. C'est une adresse mail rmc avec vous @rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire si la politique du tout radar touche à ses limites sur la route. Hein, nos radars de vitesse qui battent des records de cash. La Cour des comptes a dévoilé hier les recettes 2023 engrangées grâce aux amendes générées par ces radars.
Plus de 2 milliards d'euros, un jackpot inédit crédits en hausse de 7% sur un an. Ça s'explique surtout par l'augmentation des radars, puisqu'il y en a 4660, c'est une bonne centaine de plus qu'en 2022.
Oui, alors certes, il y a eu un vrai effet radar sur la mortalité routière au début des années 2000, mais depuis quelques années, le nombre de morts sur les routes est à peu près stable. On ne voit plus vraiment de véritable effet radar, alors qu'on en implante toujours plus, qu'il flash toujours plus, on bat des records. Est-ce que ça vous agace ou au contraire, vous trouvez ça normal qu'il y ait des radars? C'est important pour la sécurité routière. Ibrahim veut témoigner au 32-16 depuis Cagnes-sur-Mer, infirmier libéral. Salut Ibrahim.
Et bonjour.
Salut Ibrahim.
Ibrahim, infirmier, forcément, on fait pas mal de kilomètres, non, c'est ça, hein, pour la tournée tous les jours.
Ouais, c'est ça.
Et alors, pour rouler un peu du côté des Alpes-Maritimes aussi, il faut être vigilant sur les radars dans le coin.
Hein. Ah, mais moi, j'ai 20 kilomètres à faire, j'ai 5 radars déjà.
Ah oui, ça demande de la vigilance. Mais c'est, après, Ibrahim, si vous faites les mêmes 20 kilomètres tous les jours, vous commencez à les connaître, les radars.
Ah oui, mais tu te fais quand même surprendre. Tu te fais quand même surprendre parce que il y a un moment où tu es un peu plus fatigué que d'autres, tu fais moins attention et moi, il me reste 3 points, quoi.
Ah oui, donc là, il faut vraiment faire gaffe, quoi.
Oui, surtout que votre permis, c'est votre outil de travail, Ibrahim, un peu.
Oui, c'est ça.
Ah ouais, donc, mais même avec les applis et tout, là, vous arrivez encore à vous faire surprendre par.
Ben oui, parce qu'il y a toujours un patient qui t'appelle, que tu décroches, un truc, enfin voilà, c'est.
Ouais, mais bon, c'est de la sécurité routière, Ibrahim, d'être vigilant au volant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous faire la leçon.
Mais ce que nous disait Emmanuel, c'est que si on roule correctement, on perd pas les points et on n'est pas flashé.
Oui, c'est sûr. Mais je vous dis, après, il y a un patient qui t'appelle, c'est une urgence, c'est un truc, donc tu décroches, t'es plus vigilant. Mais entre-temps, j'ai jamais causé d'accident non plus, hein.
Après, oui.
Bon, oui.
Non, mais pour défendre Ibrahim, pour connaître un peu le coin, à Cagnes-sur-Mer, sur l'A8, il y a le radar qui flash le plus en France. Ça m'avait étonné.
C'est ça.
Et c'est la seule fois où je me suis fait avoir. Bon, si je me suis fait flasher, il y a un radar à 90 sur l'autoroute, là, quand on rentre, qui est. Bref, on le voit venir, hein, pourtant, il est annoncé et tout, hein, mais 90, c'est pas très élevé. Bref,
ouais, mais cette route, elle est un coup à 90, un coup à 110, ouais. Je sais même plus sur quel pied danser.
Exactement. Non, mais on parle du même radar, Ibrahim, on se comprend. Celui-là, il est piégeux, même moi, voilà, la seule fois où j'ai perdu un point, c'était là. Bref, non, mais on comprend le sentiment, Ibrahim. Après, donc pour vous, j'entends bien l'agacement. Pour vous, il y a trop de radars aujourd'hui sur les routes en France?
Ah ouais, non, il y en a trop. C'est même plus de la sécurité routière, là. C'est vraiment.
Oui, mais en même temps, on avait ce débat ce matin avec Jardine. On disait, oui, mais si on commence à enlever les radars, certains vont accélérer, forcément, Ibrahim.
Mais Charles, ils sont placés à des endroits où tu peux même pas faire d'accident, en fait.
Forcément si, en tout cas chaque fois ce que nous dit la sécurité routière, c'est que ces radars ils sont placés intelligemment dans des zones où il y a eu beaucoup d'accidents par le passé, des zones à risque, notamment quand il y a un virage sur autoroute, justement quand la vitesse diminue sur autoroute, en ville dans des zones 30, etc. Donc oui, c'est compliqué d'être toujours attentif, mais ces radars ont du sens pour la sécurité routière.
Oui, mais à autant non. Sur 20 km, il y en a 5. Vous n'allez pas me dire que sur ces 20 km, il y a eu 4000 morts par mois.
Non, c'est vrai. Non, mais Ibrahim, j'entends l'agacement, surtout quand on prend la même route tous les jours et que parfois, on n'est pas attentif, on se fait avoir. Bon, on va voir si tout le monde partage, hein, parce que tout à l'heure, vous avez entendu Ibrahim Emmanuel qui disait, moi, je suis commercial, je fais 100 000 bornes par an, j'ai mes 12 points parce qu'il suffit d'être attentif, de bien, aujourd'hui, avec les applis, on peut être attentif. Vaste débat, hein, est-ce que le tout radar a encore du sens aujourd'hui? Merci Ibrahim d'être venu témoigner ce matin en direct.
Allez, bonne journée.
Bonne route journée. Et Ibrahim, attention sur la route.
Oui, attention.
On lève le pied, Ibrahim, ce matin. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Faites attention, vous roulez tranquille en écoutant RMC. Vous faites comme Ibrahim, venez témoigner. Évidemment, vous connaissez le chemin. Ça se passe au 32-16.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, le journal de 5h30 qui approche là dans quelques minutes avec à la une cette question. Les poubelles seront-elles ramassées pendant les Jeux Olympiques? Plusieurs syndicats ont déposé des préavis du côté des éboueurs pour toute la période des JO. On vous dit tout dans le journal dans un instant. Ensuite, toute la bande va nous rejoindre pour toute l'info, la story sport de Jordan Olivier. On va parler du Parisien Ousmane Dembélé qui affronte ce soir son ancien club de Dortmund où il n'a pas forcément laissé un très bon souvenir. Anthony Morel, lui, est allé faire un tour dans les allées du concours
pour l'épine,
ouais, il a dégoté des inventions utiles et parfois inutiles, faut le dire aussi.
Mais c'est drôle.
Voilà, on va se marrer avec Anthony Morel et puis tout de suite, évidemment, votre pouvoir d'achat, la solution conso avec Géraldine.
Faites attention au poids de votre paquet de pâtes.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Vous êtes bien sur RMC et comme chaque matin, Géraldine s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Et ce matin, Géraldine, tu nous mets en garde contre le poids des aliments pré-emballés. C'est pas toujours le même poids que celui qui est inscrit sur l'emballage.
Ouais, je vais te raconter une petite histoire, Charles. Ça a commencé ce week-end. Je voulais faire un gratin de pâtes brocoli et j'avais besoin de 400 grammes de pâtes, c'est véridique. Je prends mon paquet de 500 grammes de pâtes fusilli. Bah, la surprise, j'avais 370 grammes de pâtes. Sacrée différence quand même.
J'ai
il manquait
130 grammes. Partager la photo sur Instagram. J'ai partagé ton indignation en voyant les 370 grammes sur la balance.
Ben, je me suis quand même rendu compte que j'étais pas du tout la seule dans ce cas-là. Sur TikTok, le compte de Monsieur Grammage cartonne. Tous les jours, en fait, il pèse différents aliments pré-emballés avec cette question. Le grammage sera-t-il correct? Alors, c'est vrai que le plus souvent, la différence est assez faible. Il arrive même qu'il y ait un petit peu plus qu'indiqué. Ah. Mais il y a aussi, comme dans mon cas, des différences beaucoup plus importantes. 60 millions de consommateurs avaient également fait une enquête de son côté. Verdict, un paquet de farine sur 3 était trop léger. Même chose pour 7 sachets de bananes sur 10 ou encore 80% des filets d'orange.
Mais comment on explique ces différences?
Bon, d'abord, il y a une petite marge d'erreur qui est tolérée par la loi. Sur un paquet d'un kilo, par exemple, vous pouvez avoir jusqu'à 15 grammes de moins. Là, on ne peut rien dire.
C'est pas un scandale, 15 grammes sur un kilo.
Exactement. Il peut aussi y avoir des erreurs, que ce soit au moment de l'emballage ou au moment de l'étiquetage, par exemple, pour les fruits et légumes. Là, vous pouvez demander un dédommagement si vraiment l'erreur est importante. Et puis, il y a la shrinkflation dissimulée. On vous donne moins qu'avant pour le même prix et sans vous le dire. Ça, c'est plus grave. Ça s'appelle de la tromperie.
Mais alors, comment on fait pour ne pas se faire avoir? Parce que c'est impossible quand on ne va pas se balader avec notre balance tout pesée dans le supermarché.
Non, ça pourrait être une solution, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Bah, la solution, en fait, c'est de vérifier chez soi et lorsqu'on constate une vraie différence entre ce qui est indiqué sur le paquet et la réalité, d'abord, vous contactez le magasin, photo à l'appui. Généralement, vous serez remboursé, mais il faut aussi le signaler sur le site signal.conso.gouv.fr parce que s'il y a plusieurs signalements sur une même marque, il y a une enquête qui pourrait être ouverte. Et s'il est prouvé que la marque ment, ciment, qui a trompé pour le consommateur, là, ça risque quand même de lui coûter cher.
Mais tu l'as fait, toi, parce que j'ai partagé, moi, ton indignation sur Insta avec ce paquet de pâtes.
J'ai contacté le magasin qui m'a remboursé.
C'est vrai?
Oui.
Bah voilà, faites comme Géraldine, battez-vous pour faire justice sur le poids des aliments pré-emballés, comme on dit. Voilà, s'il manque 130 grammes de pâtes.
130 grammes, c'est beaucoup quand même sur un paquet de 500 grammes.
Un paquet de 500 grammes, évidemment, c'est un scandale, il faut le faire savoir. Merci Géraldine pour ton astuce. Ta solution conso à retrouver quand on veut, évidemment, sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et tout de suite, on se fait plaisir. Le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Tiens, Éric Dupond-Moretti, vous savez, le garde des Sceaux qui souhaite créer un statut de repenti pour lutter contre le crime organisé. Eh ben, ça a beaucoup inspiré Arnaud Demange.
Oui, en gros, si tu balances tes potes, on t'aide à te planquer. Donc, il y a changement d'identité, changement de région, changement de visage, chirurgie esthétique et tout. Si ça se trouve, Jack Lang, c'est un ancien mafieux, on sait pas. C'est un repenti. Donc, c'est inspiré de l'Italie. Alors, chez eux, il y a la mafia napolitaine. Chez nous, c'est la Yoda mafia marseillaise. C'est pas pareil pour faire des films.
Je veux la vengeance. Oh, mais dis-moi le sang sur la tête de Jules. Il paraît que t'as parlé au Condé. C'est pas bien ça, mon fraté. Je vais sortir le cross-volé et cabrer, même si la roue est voilée, sur la vie de Basile Boli, t'es un traître. Comme Stéphane Dalmat et Peter Luxen qui sont partis au PSG.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct, évidemment, dans Apolline Matin. Mais tout de suite, Géraldine, avant le journal de 5h30, un point complet sur la météo du jour. Un 1er mai pluvieux.
Très, très pluvieux, oui. Il n'y a vraiment pas beaucoup de régions qui vont y échapper. Ce sera des pluies, même souvent, très soutenues. Cet après-midi, en deuxième partie d'après-midi, on pourra avoir de violents orages sur la Bourgogne-Franche-Comté qui vont se diriger vers l'Île-de-France, la Champagne et les Hauts-de-France. Ce sera un petit peu plus calme du côté de l'Atlantique. En tout cas, cet après-midi, on trouvera des éclaircies. Et puis, avec les pluies, les températures vont baisser. Il fera 13 à Bordeaux cet après-midi. 17 à Marseille, on aura encore 21 à Paris, 22 à Lille, jusqu'à 26 à Strasbourg.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences. En France et en Europe.
Il est 5h30.
RMC, Charles Matin.
Bon courage, bon réveil si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. En ce 1er mai, nous sommes en direct évidemment sur RMC pour vous informer. Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Des poubelles qui jonchent le sol en plein cœur des Jeux de Paris. Le scénario est redouté. Les éboueurs du secteur public parisien menacent de faire grève pendant l'événement. Ils réclament des primes et de meilleures conditions de travail. Les partis politiques mobilisés en ce 1er mai à un mois des élections européennes. Pas de jour férié, dit Gabriel Attal, alors que le Rassemblement national se réunit pour un meeting à Perpignan. Et puis Paris en demi-finale de Ligue des Champions ce soir face à Dortmund avant l'OM en Ligue Europa demain, opposé à l'Atalanta Bergame. Et vous l'entendrez à la fin de ce journal, pas d'union sacrée dans ce classico à distance.
Après la RATP, la SNCF et la fonction publique, nouvelle menace de grève sur les Jeux Olympiques.
Autour cette fois des éboueurs parisiens du secteur public. Information que vous révèle ce matin RMC. Deux préavis ont été déposés par la CGT pour plusieurs jours de mai, mais aussi pour une période allant du 1er juillet au 8 septembre. Alors que réclament les syndicats? La réponse avec Marion Gauthier.
Des primes essentiellement pour les JO d'abord, 1900 euros pour tous les agents de Paris qui seront tous sursollicités, insiste la CGT de la branche déchets et assainissement. Sur sa liste de revendications également, augmentation de 400 euros par mois pour tous, toute l'année. Éboueurs, conducteurs de petits engins qui nettoient par exemple les trottoirs, à chaque corps de métier sa mesure spécifique. Nous voulons négocier, insiste Christophe Fariné, l'un des responsables de la CGT.
Les Jeux Olympiques ne se feront pas sans les revendications des salariés. Mais non, on n'a pas vocation à gâcher ces Jeux Olympiques. C'est un levier de pression, mais si la pression, c'est bien parce qu'à un moment, le politique ne subvient pas aux revendications des salariés. Si l'exécutif parisien négocie avec la CGT, il n'y aura pas de souci.
Le syndicat s'oppose encore aux délégations de services publics qui devraient être testées pendant les Jeux. Ils veulent privatiser, alerte Christophe Fariné, qui conclut « La balle est dans le camp de l'exécutif parisien ».
Des syndicats dans la rue, en ce 1er mai, jour de fête du travail, jusqu'à 150 000 manifestants attendus à travers le pays. Une journée de mobilisation aussi pour le camp présidentiel. Pas de jour férié quand on est en campagne, étonne le Premier ministre. Un peu plus d'un mois des élections européennes, Gabriel Attal attendu dans le Loiret ce mercredi 1er mai. Date symbolique pour le Rassemblement National à Perpignan aujourd'hui pour un meeting aux côtés de Marine Le Pen. Jordan Bardella, tête de liste du parti en tête des sondages, entend garder le cap, lui qui est accusé de ne pas prendre trop de risques dans cette campagne. Le reportage sur place d'Hélène Terzian.
Il dit rien et il grimpe tous les jours.
Le constat d'Alain est cynique, mais quand Jordan Bardella refuse des débats, ne répond pas à la presse, ça fonctionne auprès de Rosaria, sympathisante du RN depuis des années. Elle n'esquivera pas le meeting de son champion.
S'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Peut-être qu'il n'a pas envie qu'on retranscrive ce qu'il dit d'une mauvaise manière, pas celle que lui entend.
Mais si Jordan Bardella esquive les coups, pour Christine, électrice de gauche, la raison est ailleurs.
Je pense qu'il se protège beaucoup pour éviter les dérapages. Je ne sais pas si c'est une coquille vide, mais en tout cas, je ne suis pas sûre que le RN soit vraiment une coquille pleine.
En voulant nationaliser le débat, il en oublie le cœur de la campagne, regrette Christiane.
Il parle de tout sauf des Européennes. Ils ne votent pas, ils ne sont pas dans les commissions, c'est pas sérieux.
Ce procès en incompétence, en dissimulation que le camp macroniste veut faire à Jordan Bardella, c'est loin des préoccupations des Français. Pour Louis Alliot, le maire RN de Perpignan.
On est dans l'écume des choses, les Français s'en foutent de toutes ces questions. Et ils veulent finir leur fin de mois, de l'emploi, de la sécurité. Tous les commentaires que je vois aujourd'hui à la campagne qui sont annexes, les gens n'écoutent plus.
3000 personnes viendront en tout cas écouter Jordan Bardella et Marine Le Pen.
Les précisions d'Hélène Terzian, service politique RMC. Notez que c'est aujourd'hui le dernier jour pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales. Vous aurez jusqu'à vendredi en mairie. L'État va financer 50% du péage de l'A14 pour ceux qui covoiturent, annoncèrent du ministre des Transports. L'A14, c'est l'autoroute la plus chère de France et solution de repli aussi pour les automobilistes qui ne peuvent accéder à l'A13 fermée entre Vaucresson et Paris depuis la mi-avril en raison de fissures. Une mesure qui s'appliquera jusqu'à la date de remise en service de l'A13.
5h34 sur RMC. Et c'est à 8h ce matin que l'arrêté anti-mendicité va entrer en vigueur à Amiens.
La mendicité cause de troubles à l'ordre public. C'est ce que dit le maire de la ville pour justifier cette mesure visant à interdire aux SDF de réclamer de l'argent dans le centre entre 8h et 20h jusqu'à la fin du mois d'août. Et en cas de non-respect des règles, les contrevenants risquent une amende. Le reportage sur place de Nicolas Robert.
Dans les rues du centre-ville, quelques SDF font la manche, assis au milieu des passants.
De se faire chasser comme ça alors qu'on essaye de manger, c'est horrible quoi.
Christophe, à la rue depuis une dizaine d'années, trouve cet arrêté scandaleux.
C'est honteux parce que on règle pas le problème dans le fond. À partir du moment où on met les gens encore plus dans la misère.
Le nombre de SDF, mais aussi leur comportement a changé, constate Gaël Mordac, représentant des commerçants d'Amiens. Cet arrêté est donc nécessaire.
Aujourd'hui, on est face à des gens qui sont avec un sentiment agressif, et puis même certains, on en a certains qui rentrent même dans les commerces et qui viennent même faire cette demande dans les commerces. On souhaite retrouver un centre-ville paisible.
Les ONG d'aide aux sans-abri sont mobilisées contre cette décision.
D'ailleurs, j'en ai vu un, il était tout seul.
Gaël, secrétaire de l'association L'Espoir pour nos amis de la rue, y voit une véritable chasse aux pauvres.
C'est un peu aberrant pour ces gens. Où vont-ils aller? Que vont-ils faire? C'est une question que tout le monde se pose. Et mettre une amende, ok, mais ils n'ont pas de sous, ça va leur changer quoi. Rien du tout.
Les associations dénoncent aussi la volonté de la municipalité de nettoyer la ville avant le passage de la flamme olympique en juillet prochain.
Et ça vous fait réagir ce matin, cet arrêté anti-mendicité qui entre en vigueur à Amiens. Est-ce que c'est de la chasse aux pauvres, comme le disent les ONG? Au contraire, est-ce que c'est nécessaire, comme le réclament les commerçants du centre-ville? Est-ce la bonne méthode face à l'agressivité de certains SDF en centre-ville? Ça se passe à Amiens, mais ça concerne aussi sûrement d'autres communes. N'hésitez pas, ce matin, ça vous fait réagir. Vous voulez témoigner. Le 32-16 est ouvert. Et d'ailleurs, tiens, à 6h10, on appellera Jérôme Jean, commerçant à Amiens, qui est à la tête d'un collectif qui s'appelle Ras le vol et qui plaide pour cet arrêté anti-mendicité. Mais on sait que ça choque beaucoup. N'hésitez pas à venir réagir. Ça se passe au 32-16. On va lire aussi vos messages sur Direct Studio.
C'est le jour J pour Paris, en déplacement à Dortmund ce soir. L'heure est venue pour le PSG d'écrire son histoire. Demi-finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia. C'est l'événement sur RMC aujourd'hui dès 18h pour l'avant-match. Coup d'envoi 21h suivi de l'after-foot jusqu'à 1h. Un rendez-vous très attendu, Charles, par les Parisiens, par les supporters parisiens.
Et par Thibaut Texer, j'en suis sûr.
Et non, un peu moins par ceux de l'OM opposés à l'Atalanta Bergame. Demain, en demi-finale de Ligue Europa, un duel européen à distance pour les meilleurs ennemis du foot français, Martin Bourdin.
Même si certains préfèrent rester prudents,
faut pas être trop chauvin.
Dans les rues de Marseille, la fierté, la passion pour l'OM est souvent trop forte. Impossible, évidemment, de pousser derrière le PSG ce soir.
Jamais de la vie que Marseille, non, va gagner la Ligue Europa et ils vont perdre.
Marseille, c'est impossible de supporter l'ennemi. Impossible, frère. Je suis de Marseille, c'est impossible. Moi, je veux qu'ils perdent.
Quand les Parisiens, eux, sont un peu plus nuancés.
On a la classe parisienne, c'est normal.
La rivalité sportive entre le PSG et l'OM, pour moi, elle est un peu fictive, étant donné que le PSG les surclasse complètement.
J'aurais préféré soutenir Saint-Etienne, mais il représente la France tout de même. Hein.
Enfin, soutenir l'OM, pourquoi pas, mais Samy a quand même une condition.
Faut que Paris gagne, faut que Paris gagne. Paris gagnera et on supportera Marseille parce qu'on est bons joueurs. Mais si Paris perd, là, on va pas supporter Marseille. Hein.
Parce que la priorité, c'est évidemment que le PSG aille en finale de la Ligue des Champions. Alors, les Parisiens qui veulent voir l'OM gagner demain.
Non, moi, je peux pas comprendre.
Ça agace au Augustin, 17 ans, maillot de Warren Zaïre Emery sur le dos.
Ça m'enlèverait un peu cette excitation si Marseille gagne la Ligue Europa.
Car même si cette rivalité est historique, ce sont surtout les plus jeunes, Marseillais ou Parisiens, qui veulent voir leur meilleur ennemi s'incliner cette semaine.
Ah bah tiens, est-ce que les Marseillais seront derrière le PSG? Bah je vais poser la question à mon Marseillais préféré, Thibaut Texer.
Mais pas du tout, Charles.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Mais
complètement allemand ce soir.
Je suis complètement, mais je suis toujours fan du Borussia Dortmund depuis toujours.
Ah
depuis
tout petit. Non, c'est intéressant. Moi, je suis supporter parisien, mais jeudi soir, bon, je vais pas sauter de mon canapé si l'OM marque, mais je serais content si l'OM se qualifie pour la finale de la Ligue Europa. Voilà, je serais plus ou moins. Oui, non, mais j'ai tellement de copains marseillais justement que je serais content pour eux quelque part devant ma télé. Je me dirais, bah, c'est génial. Je suis content pour Thibaut.
Quand on est marseillais, quand on est supporter de l'OM. Et qu'on habite à Paris, je peux vous dire que c'est difficile. Okay, moi, ça fait 12 ans depuis l'ère Qatari que je suis à Paris. J'en mange tous les jours.
Donc, est-ce que ça vous choque, tiens, ces supporters marseillais comme Thibaut, qui seront pour un club allemand ce soir face au club français? Ou au contraire, est-ce que c'est important pour vous de défendre les couleurs de son club et la rivalité?
Ah oui.
Avec le n'hésitez pas ce matin. Vous êtes peut-être nantais, lyonnais, lillois, toulousain. Est-ce que ce soir, on est tous derrière les clubs français? Vous n'hésitez pas. Le 32-16 est ouvert. On va continuer à en débattre ce matin.
Et puis on ne sait pas lui s'il est marseillais, s'il est parisien, mais en tout cas il est heureux ce matin. Un Français a remporté le jackpot de l'Euromillion hier soir, plus de 166 millions d'euros. Les numéros gagnants, 13, 22, 24, 33, 47, les deux étoiles, le 5 et le 1. Si vous êtes le vainqueur, vous avez 60 jours pour vous présenter à la Française des Jeux. On est loin du record hexagonal décroché par une Tahitienne avec 220 millions d'euros en 2021. Le plus gros gain du jeu s'établit à 230 millions d'euros, remporté par un Britannique, c'était en 2022.
Bon, et puisque
6 millions d'euros, c'est quand même pas mal.
Ouais, et puisque tout le monde est là ce matin autour de la table dans l'équipe, j'en déduis que personne n'a gagné ici les 166 millions d'euros. Enfin, les courses, c'est à Saint-Cloud.
Mais c'est à 15h15 sur RMC Découverte en direct. Le 3 Sadak est le favori de la Dream Team RMC. Son insider, c'est le 2 Jojo Junior. Le 15 et le 3, pardon, et le 2.
D'accord, le 15.
Le 3 et le 2.
Le 3 et le 2.
Le 3 et le 2.
Ok, Jojo Junior.
J'ai dit c'était hier. Sadak et Jojo Junior.
Voilà, c'est noté. Voilà. C'était les courses avec Thibaut Texer à 5h40. Tiens, on va aller faire un petit tour sur Direct Studio. Géraldine, est-ce que les leftos sont là? On est le 1er mai. Est-ce que les Français sont quand même réveillés avec RMC?
Et oui, il y a énormément de messages vraiment ce matin. Tiens, on a Steve qui nous dit que c'est dur d'être sur la route quand il n'y a pas un chat. Heureusement que vous êtes là. Et il nous dit que ce soir, il va projeter son vidéoprojecteur pour regarder le match sur le mur de son voisin qui est marseillais. Donc on sent
quand même. Ça chambre quand même, hein, ce soir.
Seb qui nous dit supporter le PSG, jamais de la vie. Bon, bah voilà, vous êtes.
La rivalité.
Ah oui, il y a une vraie rivalité. Puis tiens, on a Émilie qui nous dit merci d'être là aujourd'hui. Je pense aux personnes comme moi qui travaillent. Je suis aide à domicile les jours fériés. Pensez au don de sang les jours fériés. La santé, il y en a pas pour la santé.
Oui, c'est vrai. Bah, très beau message. Oui, d'Émilie. Voilà, les courageux du matin, ceux qui sont levés un 1er mai, pas de jour férié sur RMC. Vous le savez, on est tous là pour vous informer. On ne perd pas les bonnes habitudes. On va aussi vous faire gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh oui, vous vous levez tôt avec RMC, vous écoutez toute l'info, eh bien, vous pouvez gagner des beaux cadeaux si vous répondez à notre question d'actu.
Très difficile ce matin. Qui est l'adversaire du PSG ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions ?
Bon, je vous donne pas d'indice, vous avez forcément la bonne réponse. Dans ce cas-là, vous envoyez tout de suite actu par SMS 732-16.
Avec un super radio réveil de la marque Muse à gagner pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Oui, et puis on rajoutera la coque pour smartphone, évidemment. Bah oui, ces jours de match, ces jours de fête, on va vous gâter tout à l'heure si vous êtes tiré au sort. Mais pour ça, il faut envoyer actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Et tous les matins, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actualité. On retrouve tout de suite Victor Joannin. Bonjour Victor.
Bonjour Géraldine, bonjour Charles.
Bonjour.
Alors Victor, la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, est l'invitée d'Apolline tout à l'heure à 8h30 dans le face-à-face. La leader syndicaliste défilera ensuite à Paris pour le traditionnel 1er mai. Le mot d'ordre, c'est le refus de l'austérité, mais aussi Victor, la lutte contre l'extrême droite.
Oui, le syndicat de Sophie Binet qualifie l'extrême droite de pire ennemi des travailleurs et travailleuses dans son appel à manifester. Et c'est vrai que la CGT est en pointe sur ce sujet avec des dizaines de formations organisées dans les unions départementales pour aider les militants à argumenter contre le programme du RN auprès des salariés, mais aussi plusieurs rendez-vous récents, une manifestation sur les terres de l'ultra-conservateur Robert Ménard à Béziers la semaine dernière, et une table ronde organisée mi-avril avec des syndicats italiens et allemands. L'idée est de faire front commun pour contrer l'extrême droite à quelques semaines de l'élection européenne. Alors que le candidat du RN, Jordan Bardella, survole les sondages, les responsables syndicaux le savent, leurs troupes sont de moins en moins étanches au discours du Rassemblement National. Aveu du responsable d'un bastion syndical dans les transports, le RN va cartonner chez nos gars, prédit-il. Ils en parlent librement alors qu'avant c'était tabou. Un sondage de 2022 vient appuyer cette observation. Marine Le Pen récolte 21% des suffrages chez les sympathisants des syndicats. 5 ans plus tôt, c'était seulement 13%. En clair, les syndiqués votent un peu moins pour l'extrême droite que la population générale, mais ce constat est de moins en moins vrai.
Et pourtant, Victor, les syndicats ne parlent pas d'une seule voix sur le sujet.
Oui, plusieurs syndicats s'affichent ouvertement contre le RN et ses idées, la CGT donc, mais aussi la CFDT. Chez les deux premiers syndicats de France, le cordon sanitaire tient encore. Pas question de discuter avec les élus d'extrême droite et tout responsable syndical qui s'affiche à leur côté est exclu. Mais il faut convaincre sans braquer ni stigmatiser les électeurs. Dans l'agroalimentaire par exemple, un secteur ouvrier où les travailleurs immigrés sont en nombre, la CFDT ne donne plus de consignes de vote, mais s'applique à décrypter les positions du RN au Parlement européen pour montrer qu'elles vont contre les intérêts des salariés, quitte à perdre des adhérents. En revanche, d'autres syndicats sont plus en retrait. Ainsi, Force Ouvrière, troisième syndicat français, ne défilera pas aujourd'hui avec les autres à Perpignan pour protester contre la manifestation du RN parce que ses responsables veulent rester neutres. Le numéro 1 de la CFTC est sur la même ligne. Nos valeurs sont opposées à celles des partis extrêmes, mais je ne fais pas de politique, chacun son rôle, explique Cyril Chabanier, qui accepte de discuter désormais avec les députés RN depuis qu'ils ont un groupe parlementaire.
Merci Victor Joannin pour cet indiscret signé en compagnie du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h moins le quart, toute votre bande est là. Mais oui, en ce 1er mai, ils se sont levés pour vous informer, mais surtout pour le plaisir d'être tous ensemble sur RMC. Bon, jour de match, jour de sport, évidemment, avec Jordan Olivier. Salut Jordan.
Salut, j'étais obligé de me lever pour ce jour de match. On va parler d'Ousmane Dembélé dans la Story Sport aujourd'hui. Il est de retour à Dortmund. On vous explique pourquoi l'accueil risque d'être très hostile.
Anthony Morel est là pour C'est déjà demain.
On va aller faire un tour dans les allées du concours Lépine qui commence aujourd'hui. Bah, j'adore moi aussi, forcément, concours d'innovation. On va voir ce qu'il y a à trouver cette année.
Et puis le bonus avec Géraldine.
Je vais vous donner le film à voir qui sort là au ciné aujourd'hui.
Et puis on a Seb qui veut témoigner au 32-16. Tiens, Seb, qui va suivre le match ce soir. Mais alors, sera-t-il derrière le PSG? Sera-t-il derrière l'OM demain? Suspense, allez, je garde un peu de suspense. On accueille Seb tout de suite au 32-16.
RMC, Charles Matin,
Charles Magnin.
Charles Magnin et toute sa bande. À 5h46, Anthony Morel nous emmène au concours Lépine. On va parler de ciné avec Artus et Géraldine Demory dans un instant, mais tout de suite le foot avec Jordan Olivier, mais surtout avec Seb qui nous appelle au 32-16 depuis le Rhône. Salut Seb.
Salut.
Je me suis permis un petit Seb, mais c'est Sébastien qui est avec nous.
Oui, mais il n'y a pas de souci, on s'est déjà eu souvent au téléphone.
Oui, on est ensemble le matin sur RMC. Sébastien, opérateur laser, c'est ça? Alors je ne sais pas c'est si levé pour le boulot en ce 1er mai.
Non, je finis ma nuit.
Vous finissez la nuit de boulot, ben voilà, on est là aussi pour ça le matin. On vous raccompagne, on vous borde même si nécessaire le matin sur RMC. Et alors, Sébastien, vous êtes dans le Rhône, donc vous êtes à mi-chemin. Je ne sais pas de quel côté la pièce va tomber, là c'est pile ou face, supporter...
Plutôt côté l'OM,
ok. Et eh bien, même si vous aimez l'OM, est-ce que ce soir vous souhaitez une victoire du PSG?
Ah, sûrement pas, j'espère qu'ils vont en prendre au moins 3, 4, 5, 6, mais tout ce qu'on veut.
Ok, alors, bon, ça fait sourire tout le monde, mais on peut reconnaître, Seb, que c'est un débat. Est-ce que voilà, ce soir il y a un club français face à un club allemand? Vous êtes français, Sébastien, et pourtant ce soir vous serez à fond derrière les Allemands.
Non, ouais, derrière Lille, derrière qui on veut, mais surtout pas derrière le PSG.
Ça peut paraître un peu lunaire pour ceux qui suivent pas le foot et les rivalités au quotidien.
De toute façon, on sera toujours les premiers quoi qu'il arrive. On va gagner l'Europa League aussi. On sera toujours les premiers. Ils seront toujours à la traîne. Les milliards, ça sert à rien du tout. Mais hors de question, jamais Paris. Ah.
Mais moi, Seb, je comprends totalement. Est-ce qu'hier les supporters du Barça étaient pour le Real Madrid face au Bayern?
Je ne pense pas.
Eh ben non. Effectivement.
Ok. Non, mais j'entends. Mais alors, Jordan comprend. Moi, Sébastien, je suis supporter parisien, mais pourtant, ce que je disais tout à l'heure, si l'OM se qualifie pour la finale de la Ligue Europa, je suis content. Je suis content pour mes potes marseillais. Je suis content pour les supporters marseillais comme vous, Seb. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère. Il y a la rivalité PSG-OM, mais je préfère le club français face aux Italiens.
Ouais, moi aussi, mais Paris, c'est pas un club français.
On tombera pas. J'aurais tout fait, hein, pourtant. Bon, c'est vrai, Seb. Et alors, il y en a un qui va avoir un voyage un peu particulier en Allemagne, un match un peu particulier ce soir. C'est Ousmane Dembélé, attaquant aujourd'hui du PSG. Mais en fait, ce soir, il revient à Dortmund 7 ans après son départ du club allemand, Jordan.
Oui, il était arrivé à Dortmund en 2016 en provenance de Rennes, à tout juste 19 ans. Le club allemand débourse à l'époque 15 millions d'euros. Et franchement, c'est pas mal pour un joueur qui n'avait à l'époque que 22 matchs de Ligue 1 à son compteur. Et très vite, il met tout le monde d'accord. Pour sa première saison, il inscrit 10 buts et délivre 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui affolent toute l'Europe, et notamment le FC Barcelone, qui fait de l'attaquant français sa priorité à l'été 2017 pour pallier le départ d'un certain Neymar, parti au Paris Saint-Germain.
Oui, Ousmane Dembélé a donc à ce moment-là quitté l'Allemagne pour rejoindre l'Espagne.
Oui, seulement un an après son arrivée à Dortmund, mais son départ se fait dans des conditions houleuses. Le FC Barcelone, c'est son rêve depuis qu'il est tout petit, mais le club allemand ne veut pas le brader. Les négociations s'enlisent. Dembélé décide alors de sécher l'entraînement pour tordre le bras de ses dirigeants. Finalement, le club catalan sortira le carnet de chèques, 135 millions d'euros bonus compris pour remporter la mise. Dembélé, à l'époque, avait assumé de façon assez étonnante sa stratégie de l'école buissonnière. Écoutez.
Avec le Borussia Dortmund, ça s'était bien passé, sauf sur la fin, où entièrement c'est de ma faute, parce que je l'ai voulu. Et comme je dis... Si ça s'était pas passé comme ça, ça allait être difficile de venir à Barcelone.
Alors, quelle franchise de la part de Dembélé.
Il avait assumé ce bras de fer. Quoi.
Oui, mais alors, ce qu'il n'avait pas dit à l'époque, c'est qu'il avait laissé son appartement en Allemagne dans un état déplorable. Résultat, il avait dû verser 10 000 euros à son ancien propriétaire. Une chose est sûre, l'accueil ce soir va être
récupérer la caution.
Très compliqué. Ouais. Et son propriétaire sera peut-être dans le stade pour le siffler ce soir, puisque l'accueil risque d'être très compliqué pour Dembélé.
Oui, accueil glacial ce soir pour Dembélé à Dortmund. Et en même temps, au tour précédent, on va rappeler que contre le Barça, il jouait aussi contre son ancien club. Là aussi, ça s'était mal fini. Il a été sifflé, hué pendant tout le match retour. Et il a brillé.
Il a été très bon sur le terrain.
Il a été très bon. Il est sorti avec un grand sourire. Donc, on espère voir le même sourire ce soir pour Dembélé face à Dortmund. Enfin, je dis on, à part Sébastien, qui est toujours avec toi au 32-16 et qui espère pas forcément un triplé de Dembélé ce soir, Sébastien.
Non, mais ça risque pas. Et la foot retombe jamais deux fois au même endroit.
En tout cas, la rencontre, on la suivra évidemment sur RMC à la radio, soirée spéciale Dortmund PSG dès 18h sur RMC, l'after jusqu'à minuit.
Je m'habillerai en jaune.
Voilà, Sébastien sera à fond. Sébastien va hurler en allemand ce soir devant sa télé. Vous pourrez aussi d'ailleurs vivre le match à la télé. Ça sera sur RMC Sport 1. Et puis c'est un peu sa Ligue des Champions à lui. Anthony Morel nous emmène ce matin dans les allées du concours Lépine qui ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui à la Foire de Paris. Concours où depuis plus de 120 ans maintenant, hein, sont présentées des inventions un peu dingues. Certaines ont changé nos vies, il faut le dire. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir cette année, Anthony ?
Bah, plein de choses. Alors c'est vrai, il y a des inventions qui ont changé nos vies et d'autres pas du tout. C'est ça qui est génial en fait, avec ce concours qui existe depuis 1901. Il a vu émerger des innovations extraordinaires, le stylo bille, l'aspirateur, les lentilles de contact, le mouchoir jetable, mais aussi d'autres qui ont plutôt fini aux oubliettes, comme l'appareil à beurrer les biscottes ou encore la fourchette électrique qui enroule les spaghettis automatiquement. Oui. On a un peu oublié. Et pourtant, je suis pour un grand avenir.
On y croyait.
Alors cette année, dans les allées du salon, on aura par exemple, c'est un de mes chouchous, la douche perpétuelle. Une start-up toulousaine qui s'appelle Ilia. Ils ont mis au point cette douche en circuit fermé qui recycle les eaux usées en temps réel. C'est hyper malin. Donc t'as deux boutons en fait sur le pommeau. Le premier, c'est douche normale. T'es en train de te savonner, voilà, t'as l'eau qui coule, elle repart, c'est normal. Et puis t'as un deuxième bouton parce que t'as toujours ce moment, tu sais, t'as fini de te savonner et t'es bien sous la douche et t'aimerais bien y rester des heures, mais bon, t'as ta petite conscience quand même qui te dit, puis bah, d'abord ça va me coûter cher, il y a l'eau chaude et puis bah, en plus c'est pas très écolo.
J'appelle ça
évidemment.
La petite conscience, moi j'appelle ça Géraldine.
Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, tu entends Géraldine qui te dit non, là il faut arrêter. Et bah là, en fait, tu vas pouvoir rester aussi longtemps que tu veux parce que l'eau va couler sur ton corps, elle va passer dans des filtres spéciaux avec des lampes UV qui vont la filtrer et la nettoyer, elle va remonter dans le pommeau et recouler sur toi. Donc en fait, tu vas avoir 5 litres d'eau que tu vas utiliser en permanence au lieu d'en utiliser 80 sur une douche. C'est génial, c'est une super bonne innovation.
Bah, elle a peut-être gagné cette année, on verra.
Ilia, ça s'appelle.
On verra. Et dans les allées du salon, on va aussi croiser une voiture gonflable.
Oui, c'est ça, une mini voiture électrique qui tient dans un sac. Alors quand je dis une voiture, une voiturette, hein, vous n'allez pas embarquer une famille de 4 personnes dedans, mais vous avez la forme de la voiture, 4 roues, un châssis, mais qui a la particularité d'être entièrement gonflable. Un petit peu comme les châteaux gonflables, vous savez, qu'on trouve dans les fêtes foraines, ce genre de choses. Donc tu sors de la voiture du sac, tu la gonfles,
tu souffles dans la voiture
et elle roule. Ben oui, elle roule évidemment. Alors on pourrait voir arriver ça sur les plages, sur les golfs pour remplacer les voitures électriques.
Moi, je passe déjà moitié de l'après-midi à la plage à gonfler des bouées, des crocodiles et des licornes.
Alors, gonfler
gonfler la bagnole en partant.
Ouais, j'avoue. Et puis alors il y a un autre problème, c'est que si tu crèves là, c'est pas juste le pneu qui crève là, c'est la voiture en entier.
Oui, c'est
ce qui est un peu problématique aussi, tu vois.
Faut pas rouler sur un
verre. Tu peux être un peu embêté.
J'ai crevé. Une roue. Non, la voiture.
Bon, et puis il y a plein d'autres choses évidemment à découvrir lors de cette foire de Paris.
Je crois plus à la douche qu'à la voiture.
Écoute, on verra qui gagne les prix. On va suivre tout ça. À la finale, ce sera le 12 mai, porte de Versailles. Donc dans le cadre de la foire de Paris, on vous donnera tous les lauréats évidemment.
Oui, on compte sur toi évidemment, Anthony, pour nous faire vivre tout ça. Et puis à vivre aujourd'hui au ciné, Géraldine, c'est ton bonus, la comédie d'Artus sur le handicap.
Un petit truc en plus, hein. C'est le titre de ce film écrit par Artus dans lequel il joue un braqueur qui, pour échapper à la police, va se réfugier dans une colonie de vacances, un peu spécial, colonie de vacances pour jeunes en situation de handicap.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi ?
Tu n'es pas handicapé ?
Si, tu veux pas handicapé ?
Bah, on ne voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne. Hein.
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic ?
C'est ma petite bite ! Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches ?
Pardon ?
Une série de gags, mais aussi évidemment un message très humain et très touchant. En 2024, là encore, le sujet du handicap reste tabou. D'ailleurs, Artus explique qu'il y a eu beaucoup de mal à convaincre les producteurs.
Il y en a plein qui nous ont dit non, personne n'a envie de voir 10 handicapés au cinéma. Et puis honnêtement, moi j'ai été surpris de la façon dont certains l'ont dit vraiment frontalement, quoi. Frontalement, non. C'est bon, les gens n'ont pas envie de voir ça. Et maintenant, tant que le film n'est pas sorti, tant que les gens ne sont pas allés le voir, on n'a pas la réponse de si c'était une bonne idée ou pas. Si le film est un succès, et je l'espère du fond du cœur, on a fait des avant-premières qui ont bien marché. Donc ça repousse pas le handicap, contrairement à ce que malheureusement certaines personnes pensent.
Ça s'appelle donc Un petit truc en plus, un film avec des handicapés, pas sur les handicapés, comme le dit Artus, et c'est en salle aujourd'hui. Et franchement, ça vaut le coup d'aller le voir.
Bah oui, la bande-annonce donne très envie, ouais. Et puis Artus, tout simplement, donne très envie. Donc
les premiers retours sont hyper positifs.
On le recommande, Un petit truc en plus, donc qui sort en salle aujourd'hui. Et oui, il le dit très bien, c'est pas un film avec des handicapés, c'est un film c'est un film avec des handicapés, pas sur les. Elle est dure celle-là. Pas sur les handicapés, avec des handicapés. Un petit truc en plus, le film d'Artus qu'on vous recommande aujourd'hui au cinéma à 5h55. On remercie évidemment toute la bande, toute l'équipe qui était là en ce 1er mai et qui sera là le 2 mai. Hein. Personne
ne
compte. Je compte sur vous. Hein. Rendez-vous demain, évidemment. On remercie Seb aussi d'être passé au 32-16. Bon, on l'a bien compris, il sera pour Dortmund ce soir et l'OM demain.
Bonne nuit, Seb.
Mais oui, bonne nuit à Seb qui finissait sa nuit de boulot. Vous n'hésitez pas, vous aussi, à passer quand vous voulez au 32-16. On vous attend. Et puis, dans un instant sur RMC, c'est votre journal de 6h avec à la une les radars qui rapportent toujours plus d'argent. C'est un record, 2 milliards d'euros d'amende en 2023. Est-ce que c'est un peu la fin de la politique du tour radar? Est-ce qu'on est allé trop loin dans le tour radar? On en débat dans un instant sur RMC à la radio et sur RMC Story. C'est parti à la télé, vous pouvez nous retrouver sur le canal 23 de la TNT.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h58 sur RMC à la radio et sur RMC Story. Vous nous voyez à la télé, on est en direct, mais oui, pas de jour férié sur RMC. On est là pour vous accompagner, pour vous informer avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous.
Déjà installé pour son journal de 6h dans un instant. Et puis tout de suite, avec Géraldine, on va regarder la météo pluvieuse de ce 1er mai.
Très très pluvieuse, oui, la pluie qui va vraiment toucher quasiment tout le monde et des pluies qui vont être souvent soutenues. En prime, on va avoir des orages violents qui vont éclater cet après-midi. D'ailleurs, 14 départements vont passer en vigilance orange pour ces orages. À partir de 17h, on aura la Marne, Lyon et l'Aube. L'Île-de-France qui sera concernée à partir de 19h et puis à partir de 21h, l'Oise, la Somme et l'Aisne. Donc des orages parfois forts avec des risques de grêle, de gros cumuls de pluie, beaucoup de vent. On retrouvera en revanche, un temps plus calme vers la Bretagne et les côtes atlantiques. Les températures vont baisser cet après-midi au passage des orages. 13 degrés à Bordeaux, à La Rochelle. Il fera 15 degrés à Clermont-Ferrand. On aura 17 à Marseille, 18 à Lyon. 21 à Paris, 22 à Lille, jusqu'à 26 encore à Strasbourg. Températures qui vont continuer de baisser demain avec de bonnes pluies qui vont se décaler vers l'est.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 camping-villages vacances pour vos plus belles expériences. En France et en Europe.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC en ce 1er mai, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'actu, toute l'info en direct, votre journal qui vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Les radars au bord des routes, ils n'ont jamais autant flashé, surtout ils ont rapporté très gros l'année dernière, 2 milliards d'euros. C'est en forte hausse de 7%, on va vous expliquer. La fête du travail, jusqu'à 150 000 personnes attendues dans la rue aujourd'hui. La crainte de débordement avec de multiples revendications dans les cortèges. Et puis le foot, Paris à Dortmund ce soir, demi-finale de Ligue des Champions pour les Parisiens au lendemain du match nul de partout entre le Bayern et le Real.
Et puis à partir de ce matin à Amiens, les SDF n'auront plus le droit de faire la manche. Un arrêté anti-mendicité qui fait polémique. Il a été réclamé par les commerçants et justement un de leurs représentants est mon invité juste après ce journal. Les radars n'ont jamais rapporté autant d'argent.
2 milliards d'euros l'année dernière, en hausse de 7% sur un an. Chiffre de la Cour des comptes au moment où l'État tient est à l'affût pour la moindre recette. Il y a plusieurs raisons à ça, Mao Becker-Granier.
Et d'abord parce que les radars sont tout simplement plus nombreux, plus de 4660 radars en France fin 2023, c'est 130 de plus qu'en 2022. Et autre raison, les radars fonctionnent mieux, ce qui ne signifie pas que les dégradations sont moins nombreuses, mais plutôt que les réparations sont plus efficaces. 91% des radars étaient opérationnels l'an passé et toutes ces recettes, elles sont utilisées d'abord pour améliorer l'état des routes, aussi pour développer les projets liés à la sécurité routière et enfin justement pour réparer les radars abîmés. Méfiance, car ces recettes pourraient baisser dans les années à venir avec la mise en place des zones à faible émission, moins de véhicules contrôlés en ville donc, mais surtout parce que les Français roulent un peu moins chaque année.
Vous le savez bien, c'est la fête du travail ce matin. On est le 1er mai, un an après la mobilisation contre la réforme des retraites. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues pour participer au traditionnel défilé du 1er mai. 270 rassemblements annoncés partout en France, entre 15 et 30 000 participants attendus à Paris. Et alors Guillaume Bier, il y a la crainte que ça dégénère.
Le défilé parisien cet après-midi entre République et Nation risque d'agréger toutes sortes de militants en quête de visibilité, à commencer par les opposants à la tenue des prochains Jeux Olympiques. Plusieurs collectifs de détracteurs ont appelé à mener des actions lors de cette journée, à une semaine de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Les activistes de la mouvance d'ultra-gauche, eux aussi, devraient se manifester. Organisés comme d'habitude en Black Bloc, ils pourraient être entre 400 et 800, estiment les policiers du renseignement. Enfin, dans le contexte géopolitique, des militants pro-palestiniens devraient également s'inviter dans le cortège syndical, ainsi que des opposants au régime iranien. Face au risque d'incidents, en plus des effectifs de maintien de l'ordre, la préfecture de police mènera des contrôles préventifs bien en amont du défilé.
Le 1er mai, je vous signale qu'il n'y a pas de transport en commun aujourd'hui dans de nombreuses villes de France, Marseille, Nice, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore Montpellier. 1er mai politique aussi, à un mois et demi des élections européennes, meeting du RN qui est en tête des sondages à Perpignan pour la deuxième année de suite hors de Paris pour le RN. pas de jour férié quand on est en campagne. Voilà ce qu'a lancé hier le Premier ministre Gabriel Attal à ses troupes qui sont talonnées par la liste socialiste dans les dernières enquêtes d'opinion. Vous vous souvenez de la formule, tiens, de Gabriel Attal sur la violence des jeunes? C'est en janvier dernier à l'Assemblée nationale dans son discours de politique générale.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Voilà ce que disait Gabriel Attal. Il avait promis à l'époque de créer de nouvelles sanctions, car elles ne commencent qu'à 16 ans aujourd'hui. Bien, c'est chose faite. La circulaire en sens vient d'être envoyée, ça y est, à tous les procureurs de France pour une entrée en vigueur à la fin des vacances scolaires. Sébastien Krebs.
Oui, parce qu'aujourd'hui, en dessous de 16 ans, un mineur ne peut pas être condamné à des travaux d'intérêt général. Cette circulaire crée donc cette mesure d'intérêt éducatif pour s'assurer, écrit le ministre de la Justice, que les mineurs prennent conscience de leurs actes. Une mesure destinée aux 13-16 ans, sans antécédent judiciaire et qui serait auteur de dégradation, par exemple. Trois étapes. D'abord, la réparation, le fameux « tu salis, tu nettoies », une action sur 20 heures maximum, avec la commune ou avec une association. Ensuite, une forme de stage de citoyenneté sur 4 heures autour des droits et des devoirs, et enfin un suivi pédagogique en lien avec l'établissement scolaire. Les parents devront être impliqués, précise le texte. L'objectif, explique le gouvernement, c'est d'agir vite, dans les 3 mois, pour tenter de stopper la délinquance à la racine.
Une procédure de radiation à l'encontre de 2 militaires lancée à Strasbourg, 2 jeunes soldats de 19 et 21 ans condamnés à 1 an de prison ferme pour une agression homophobe commise le week-end dernier. Une marche blanche, elle aura lieu samedi à Châteauroux, en hommage à Matisse, l'adolescent de 15 ans, poignardé à mort samedi dernier. Marche blanche à l'initiative de ses amis, encore bouleversé par ce drame. Sur place, Julie Brault pour RMC les a rencontrés.
Au pied d'une barre d'immeuble, Yacine peine encore à réaliser l'enchaînement des événements.
Ça fait trop de peine. C'est quand même mon pote. J'ai perdu mon pote. On avait que 15 ans. C'est trop jeune, 15 ans.
La voix parfois tremblante, il se souvient de Matisse comme d'un ami calme, le plus sage de la bande.
En vrai, il s'embrouillait jamais, il faisait pas de bêtises. Moi, j'ai jamais vu se battre. Je sais pas, c'était le plus gentil du groupe. C'était le seul garçon droit. C'était un bon gars.
Avant de se faire poignarder, l'adolescent aurait pourtant insulté son meurtrier présumé, notamment en pointant du doigt ses origines afghanes, un comportement dont Yacine n'avait jamais été témoin.
Matisse, sans vous mentir, il traînait avec des personnes de tout genre, des Arabes, des Noirs, tout le monde. Et même façon, dans tous les cas, il y avait des personnes avec lui, et les personnes, c'était des Arabes. Je pense qu'un de mes collègues, il aurait mal réagi, et il aurait juste... remis à sa place.
Alors si aujourd'hui il espère des réponses sur les circonstances exactes de la mort de son ami, il tient avant tout à lui rendre hommage lors de la marche blanche organisée samedi en sa mémoire.
Plusieurs informations à l'étranger. D'abord aux États-Unis, la police est entrée cette nuit sur le campus de l'université de Columbia à New York pour déloger les manifestants pro-palestiniens qui bloquaient l'université, le campus depuis 2 semaines maintenant. Les images ont été diffusées en direct à la télé. Le Royaume-Uni a dit dans la nuit avoir envoyé un premier demandeur d'asile au Rwanda dans le cadre de sa loi controversée qui est passée la semaine dernière, loi qui permet d'expulser des migrants à qui l'asile a été refusé dans ce pays d'Afrique. Encore une manifestation monstre en Géorgie, c'était hier soir, gaz lacrymogène utilisé sur des milliers de manifestants pro-européens qui étaient mobilisés, qui sont d'ailleurs mobilisés depuis 3 semaines dans ce pays contre un projet de loi considéré comme un rapprochement avec la Russie. À 6h06 sur RMC, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a un message qui a pour tous ceux qui ne croient pas à la baignade dans la Seine dès le mois de juin en vue des Jeux Olympiques.
Alors tous les voilà, je vous le dis, oui, on va nager, alors préparez-vous à dire, ah bah quand même, elle l'a fait, quoi, ils l'ont fait.
Voilà, les gna-gna-gna, donc à bien se tenir. Anne Hidalgo promet de se baigner le mois prochain dans le fleuve hein, pour rassurer sur la qualité de l'eau. Nouveau vol qui fait désordre, tiens, avant les Jeux, une responsable de l'organisation des JO à Lille s'est fait dérober 2 ordinateurs dans sa voiture. C'était lundi soir, sans qu'on ne sache la nature des données qu'il contenait. Voilà ce que dit le parquet. Et puis alors, c'est le grand soir. C'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain qui jouera ce soir à 21h sa demi-finale aller de Ligue des Champions chez les Allemands de Dortmund, là où les Parisiens n'ont jamais gagné en 3 déplacements avec Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé et avec le Portugais Vitinha, devenu un des indispensables du PSG cette saison, Arthur Perrault.
Oui, Vitinha a changé de dimension cette saison au point d'être l'un des meilleurs joueurs parisiens. Un bilan impressionnant, 9 buts et 5 passes décisives. Son compatriote et coéquipier Gonçalo Ramos.
C'est l'un des joueurs les plus importants de notre équipe cette saison.
Je ne suis pas surpris parce que je le connais depuis 2016. Je connais ses qualités. C'était juste une question de temps avant d'atteindre son niveau.
Arrivé en juin 2022 en provenance de Porto, Vitinha a réussi à faire oublier le départ de Marco Verratti à 24 ans. Il s'est parfaitement acclimaté à son nouveau club. L'entraîneur Luis Enrique est impressionné.
Il fait une saison incroyable. Il est à la hauteur des meilleurs milieux de terrain du monde. Il peut jouer lié à l'intérieur, numéro 6. Il est très important. Il a cette capacité à marquer des buts. Il s'est aussi amélioré en défense. Il est capable de marquer les joueurs, de ne pas se faire prendre dans le dos.
Très performant en Ligue des Champions, Vitinha est suivi en Europe. Le PSG souhaite verrouiller sa nouvelle pépite en prolongeant son contrat qui court jusqu'en juin 2027.
Soirée spéciale sur RMC. Hier soir, le Bayern et le Real ont fait match nul de partout avec un doublé de Vinicius pour les Madrilènes.
Oui, soirée très spéciale. On a hâte d'y être. Ça commence dès 18h sur RMC. Le match à vivre aussi sur RMC Sport 1. Le coup d'envoi à 21h. L'after sur RMC. La libre antenne. Mais dès 6h09, c'est aussi l'événement ce matin sur RMC. Le prono de Manu Le Chypre. Bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Ce soir, dans les bookmakers PSG.
Écoute, si on repart avec un match nul, ce sera déjà pas mal, allez.
Ah, bah pas très optimiste le Manu. Bah tiens, on va voir tout de suite au 32-16, qu'en pense Béatrice, qui nous appelle de Chaumont à Haute-Marne. Bonjour Béatrice.
Bonjour tout le monde, ça va ?
Eh ben ça va, jour de match, Béatrice, pour vous aussi.
Ah, le stress commence à monter.
Ah, déjà, oui, bah oui, dès 6h09, c'est jour de match.
C'est les meilleurs moments, ça.
Ah, mais je suis confiante.
Ah, confiante. Alors,
j'ai écouté hier la composition probable d'équipe, ça me convient parfaitement.
Ça convient à Béatrice, ouais, c'est la composition, ça ressemble à ce qui s'est fait contre
le
match retour.
Il y a Nuno Mendes qui jouera peut-être pas tout le match. Ramos, il sera sur le banc, apparemment.
Oui, mais c'est des bons jokers, ça aussi, Ramos, ça
peut débloquer une situation. C'est bien quand il rentre enfin.
C'est... Mais oui,
et disons, Béatrice, on a des bons attaquants, des bons défenseurs.
Et alors,
ça
le
va
prono,
le faire.
Ah, le prono, Béatrice, ça va le faire, parce que Manu dit match nul, vous croyez à la victoire.
Oui,
Béatrice.
J'ai entendu, non, il est défaitiste.
Ah, donc victoire pour Béatrice. Et puis tiens, j'ai une autre question, Béatrice, là, je vous sens très supportrice du PSG ce soir, mais est-ce que vous serez aussi derrière l'OM demain contre l'Atalanta Bergame?
Oui. Bah, je soutiens les clubs français, mais je préfère que le PSG gagne quand même.
Ah, plus PSG quand même, mais quand même derrière l'OM. Les clubs français, non mais c'est un vrai débat ce matin. Tout à l'heure, on a eu Seb, supporter marseillais.
Oui, j'ai entendu. Dire,
ah, moi, ce soir, je suis à fond derrière les Allemands, peu importe, club français ou pas.
Donc, ah, moi, j'ai ma meilleure amie qui habite à Dortmund. Elle est à fond derrière Dortmund.
Ah oui, mais ça, bon, c'est une bonne guerre. Mais bon, les supporters français qui vivent en France.
Vous devriez passer la soirée ensemble.
Ah bah oui, oui c'est vrai Béatrice, j'espère que vous allez vous appeler avec votre ami qui vit à Dortmund. En tout cas, on vous souhaite un bon match que vous vivrez aussi sur RMC, l'avant-match, l'after, évidemment.
Elle est où, la finale, elle a lieu où ?
À Wembley, de mémoire.
Ah bah on y va ?
Ah bah avec plaisir. Merci pour l'invitation Manu.
Moi j'étais à Bruxelles en 96 quand ils ont gagné la Coupe des Coupes.
La Coupe des Coupes, ouais.
Et bah s'ils font la finale de la Ligue des Champions à Wembley, on y va. En plus on peut être rentré pour le matin, Wembley.
Oui, et puis c'est un samedi soir, donc il n'y a pas de problème.
Oh mon Dieu.
En plus, c'est parfait. Et ben voilà, parfait, Manu. Le rendez-vous est pris. Merci pour l'invitation.
J'ai des copains qui peuvent nous héberger.
Et est-ce que le on comprend aussi, Géraldine?
Il faut trouver les places.
Voilà, et
après là, le reste, je m'en occupe.
Parfait. Et ben voilà, à 6h11, on est tous invités.
Et on
embrasse Béatrice. Bon match. On débrief demain matin, tous ensemble, évidemment. Béatrice, au 32-16. Vous faites comme Béatrice ce matin. Appelez-nous, supporters du PSG, de l'OM, cette semaine européenne qu'on vit, évidemment, tous ensemble sur RMC. Il est 6h11.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et oui, si vous aussi, vous voulez gagner ce matin, parce que Manu nous gâte, mais nous aussi, on vous gâte le matin sur RMC, dans Charles Matin, tous les matins. Vous qui écoutez l'info, on vous offre des cadeaux, mais attention, il faut répondre à notre question d'actu.
Qui est l'adversaire du PSG ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions?
Oui, je vois que Quentin a la réponse. Vous aussi, vous avez la bonne réponse, j'en suis sûr. Il suffit d'envoyer tout de suite actu par SMS au 732-16.
Pour gagner votre radio-réveil de la marque Muse et vous réveiller tous les matins avec RMC.
Voilà, si vous êtes tiré au sort, vous serez en direct avec nous dans quelques minutes. Jouez tout de suite, vous envoyez actu. Tu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h14, vous êtes bien sur RMC, on part tout de suite à Amiens.
L'invité de Charles Matin.
Où l'on retrouve Jérôme Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du collectif Ras le vol, commerçant à Amiens pendant 17 ans. Amiens, où entre en vigueur ce matin un arrêté qui a déclenché une vive polémique, un arrêté anti-mendicité. Les SDF du centre-ville d'Amiens ont interdiction de faire la manche, selon la maire de la commune qui a pris cet arrêté. La mendicité cause des troubles à l'ordre public en générant des attroupements avec parfois de l'alcoolisation. Elle explique qu'en fait, ce sont les commerçants qui ont réclamé cet arrêté anti-mendicité. Pourtant, Jérôme Jean, vous entendez tous ceux qui dénoncent depuis plusieurs jours maintenant une chasse aux pauvres à Amiens.
Oui, mais écoutez, ce qui est sûr, c'est que je pense que ici à Amiens, la municipalité a pris une décision courageuse. Et effectivement, je pense que d'autres communes en France vont suivre. Parce qu'effectivement, Amiens n'est pas la seule ville en France où on a des gens qui effectivement font aujourd'hui réclament un peu d'argent et parfois d'ailleurs de manière agressive. Et je pense que c'est au travers de ce que Madame le maire a mis en place, je pense que c'est plus effectivement ceux qui réclament de manière agressive de l'argent et qui ne sont pas très sympathiques ou pas très agréables avec les gens qui passent dans la rue. Je pense que c'est plus ça que Madame le maire a voulu.
Mais ça va être très difficile à juger, ça. C'est la police municipale, en fait, qui pourra dresser des amendes aux SDF devant les commerces. Et c'est, comme vous dites, à la police municipale de juger, d'avoir du discernement, juger entre ceux qui font la manche de manière agressive ou pas, c'est ça?
Bah écoutez, en tous les cas, en ce qui concerne cet arrêté anti-mendicité, ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas opposer la pauvreté, qui est une réalité aujourd'hui. On a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité de manger correctement, et ça, c'est un réel problème. Ça, c'est un réel problème dans notre pays. Mais c'est pas effectivement aujourd'hui aux commerçants de devoir régler ça. Et effectivement, il ne faut pas opposer aujourd'hui à cet arrêté anti-mendicité les commerçants. Les commerçants, aujourd'hui à Amiens ou dans d'autres villes de France, la problématique qu'ils rencontrent, c'est qu'on a des gens qui aujourd'hui occupent devant les magasins l'entrée de ceux-ci, de façon parfois agressive, réclament de l'argent, et il y a une tendance générale aujourd'hui à une population de clients qui se plaint de ce genre de scénario. Et c'est peut-être ce que Madame le maire a voulu signifier aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre entre ceux qui ont besoin de manger. Et ça, c'est incontestable. On est dans un pays où aujourd'hui, les gens ont besoin de manger. Mais les commerçants aussi ont besoin de travailler.
Oui, mais Jérôme Jean, c'est pas en collant des amendes à ceux qui n'arrivent même pas à manger qu'on va les aider à s'en sortir, non?
Alors, effectivement, sur la remarque que vous venez de faire, elle est assez juste. Vous venez de le dire, ça va être mis en place à partir d'aujourd'hui. Il va falloir un peu de pédagogie. Et il va falloir sûrement aussi une approche qui soit légitime et qui soit des plus sensées. Alors, en effet, si effectivement le but c'est de verbaliser tous les gens qui font la quête dans la rue ou qui réclament de l'argent, ça ne va pas pouvoir fonctionner comme ça. Alors, je peux pas vous dire comment les choses vont fonctionner, mais ce qui est sûr, c'est que si vous prenez l'exemple d'Amiens, mais je pense que ce n'est pas la seule ville de France, vous avez de plus en plus de gens qui réclament de l'argent et parfois, je dis bien parfois, c'est pas une généralité, de façon agressive. Et ça, c'est pas acceptable. Vous avez tout à fait le droit, vous, monsieur, de ne pas donner d'argent à une personne qui est à côté de vous sans forcément vous faire agresser. Donc, il faut trouver l'équilibre aujourd'hui entre ceux qui ont besoin de manger.
Parce que voilà, Jérôme Jean, je pense que tous les Français qui nous écoutent croisent tous les jours, malheureusement, des SDF dans toutes les villes de France, devant des commerces qui sont parfois là depuis des mois, voire des années, malheureusement, mais avec qui ça se passe bien, auxquels on donne un peu de monnaie en sortant du commerce, etc., sans agressivité. Donc là, on a du mal à comprendre pourquoi à Amiens, il serait d'un seul coup interdit de faire la manche, d'être assis dans la rue et de demander un peu d'argent.
Moi, je ne suis pas le représentant aujourd'hui d'Amiens Métropole ou de la ville d'Amiens, mais pour bien les connaître. Moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de bon sens et qu'aujourd'hui, ça va pas être une verbalisation à outrance. Ça va être la mise en place aujourd'hui d'un dispositif où, à partir du moment où, de façon agressive, vous allez réclamer de l'argent, vous allez effectivement sûrement recevoir une visite de la police municipale. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté d'Amiens, mais des autres villes de France, parce qu'encore une fois, vous soulignez aujourd'hui la mise en place d'Amiens, mais il faut aussi remarquer qu'à Amiens, Madame le maire et Monsieur le Président de la Métropole ont eu au moins le mérite de s'attaquer à un vrai problème que vous retrouvez dans beaucoup d'autres villes de France.
Où ça? Donc, qu'avec votre collectif Ras le vol, vous avez des adhérents un peu partout en France. Est-ce qu'il y a d'autres communes dans lesquelles vous réclamez, il y a urgence, selon vous, à prendre ce type d'arrêté?
Nantes, Rennes, Lille, excusez-moi, mais installez-vous en terrasse aujourd'hui dans certaines villes parmi les trois que nous venons de citer, et vous allez voir que toutes les cinq minutes, vous avez quelqu'un qui vient vous réclamer de l'argent. Alors, pas toujours de façon agressive. C'est pour ça qu'il faudra du discernement. Il faudra bien faire la distinction entre celui qui vous réclame de l'argent de façon agressive et celui qui ne le fait pas. Après, comment la loi sera appliquée ? Ça, effectivement, il appartient à Monsieur le Président de la Métropole et à Madame le Maire d'Amiens de s'en expliquer. Mais encore une fois, on se plaint tout le temps. On se plaint régulièrement et je vous assure qu'à Amiens, vous avez des gens qui sont toujours au même endroit, qui réclament de l'argent du matin au soir. Si vous ne donnez pas 50 centimes ou 1 euro, je puis vous assurer qu'aujourd'hui, ils sont fort désagréables avec vous. Je pense que c'est ce qu'a voulu signifier et condamner Mme Le Maire.
Vous plaidez pour du discernement dans l'application. Alors, vous dites une loi, c'est pour l'instant un arrêté municipal du côté d'Amiens qui entre en vigueur tout à l'heure à 8h jusqu'au 31 août prochain. On va voir dans les faits comment c'est appliqué, comment s'applique ce discernement que vous prenez, Jérôme Jean. Je rappelle que vous avez été commerçant à Amiens pendant 17 ans, fondateur du collectif Ras-le-vol, que vous représentez les commerçants. Merci d'avoir été en direct avec nous pour défendre ce que vous qualifiez de décision courageuse de la mairie d'Amiens, cet arrêté anti-mendicité qui entre en vigueur aujourd'hui et qui fait beaucoup réagir. Ça sera le cas d'ailleurs, j'imagine, au 32-16 sur Direct Studio. Vous n'hésitez pas, le débat est ouvert. Il est 6h21.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso sur RMC. Et ce matin, Manu, une mauvaise nouvelle.
Bah oui, nos factures de gaz vont monter. Alors c'est simple, les factures de gaz, ça monte sur les marchés, tu payes plus cher. Ça baisse sur les marchés, tu payes plus cher aussi.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et vous êtes bien sur RMC, il est 6h22.
RMC, Manu Conso.
Avec Manu Le Chypre et nos factures de gaz qui augmente à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er mai.
Oui, la commission de régulation de l'énergie qui est chargée de publier chaque mois le prix repère du gaz. Vous savez, le prix repère du gaz, c'est ce prix indicatif qui sert de boussole aux consommateurs depuis que les tarifs réglementés ont disparu. Eh bien, elle estime, la CRE, que nos factures devraient augmenter de 1,4% ce 1er mai par rapport à nos factures d'avril. Concrètement, le coût du kilowattheure pour l'eau chaude et la cuisson devrait passer de 10,9 à 11,1 centimes, tandis que le prix du kilowattheure destiné à l'eau chaude devrait le passer, lui, de 8,9 à 8,9 centimes.
Et comment on justifie, comment on explique cette hausse ?
On n'a pas de chance, en fait, parce que la facture, elle a toujours de bonnes raisons d'augmenter. Alors, ces derniers mois, on avait les prix du gaz qui baissaient sur les marchés internationaux. Mais pas de chance, c'était les coûts de distribution qui augmentaient ou les taxes. Il faut rappeler que notre facture de gaz, c'est 40% de matières premières gaz, 25% de frais d'infrastructure et 23% de taxes. Et là, je vous le donne en mille, c'est pas la faute des taxes, c'est pas les coûts de distribution, c'est les prix du gaz qui remontent un peu sur les marchés.
Ouais, donc c'est vraiment pas de bol là.
Voilà.
Il y a toujours une bonne raison.
Il y a toujours une bonne raison pour que notre facture de gaz, elle augmente.
Mais au moins on peut compter sur Manu pour nous expliquer ces raisons, à défaut d'avoir la baguette
magique. Vous paierez pas moins cher, mais au moins vous savez.
Voilà, vous savez pourquoi, grâce à Manu Le Chypre et Manu Conso, tous les matins sur RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et c'est Arnaud qui a été tiré au sort ce matin pour jouer avec nous. Oula, attention, on part dans les Bouches-du-Rhône, du côté de Martigues. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Ça va Arnaud ce matin ?
Ça va, super, tout va bien.
Tout va bien pour vous ce matin, Arnaud. Ça va aller encore mieux si vous avez gagné. Parce qu'attention, il faut répondre à notre question d'actu.
Qui est l'adversaire du PSG ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions ?
C'est Dortmund.
Oui, bravo Arnaud, c'est gagné. Vous avez remporté
votre radio réveil de la marque Muse. Bravo Arnaud.
Et voilà, une victoire d'un Marseillais.
Première victoire d'un Marseillais.
Voilà, belle victoire marseillaise avec vous Arnaud ce matin. Bon, j'imagine, du côté de Martigues, vous êtes supporter de l'OM, Arnaud.
Et oui, c'est vrai, mais bon, après pour le foot français, il faut quand même que ça passe, ça serait bien.
Je m'attendais pas à ça, Arnaud. Vous êtes supporter de l'OM, mais ce soir, supporter du PSG.
Il faut que ça avance quand même, ça serait bien. On va dire qu'il faut que ça fasse.
Ce serait bien pour le foot français. Dis donc, Arnaud, fair play. Je suis sûr que ça va faire réagir. Je suis pas sûr que tous vos copains marseillais pensent la même chose, mais ça me fait plaisir de l'entendre, Arnaud. Et je vais vous souhaiter que ça passe pour l'OM demain aussi. Voilà, on va faire comme ça, Arnaud.
Oui, allez, on se soutient tous.
On se soutient tous. Et tiens, je vous envoie la coque aussi, la coque RMC pour votre smartphone,
donc,
Arnaud.
Pour un soutien de l'OM.
Ça va Charles. Forcément passer là pour le PSG, si même depuis Martigues ce matin.
Salut Arnaud, félicitations. Franchement, d'avoir passé ce cap avec Charles, c'est magnifique.
Mais oui,
cette entraide, cette amitié.
Mais oui, on est ensemble cette semaine avec Arnaud et encore plus heureux de vous gâter ce matin sur RMC.